Bonjour et bienvenue dans cet audio guide de la recyclerie maritime. La recyclerie maritime, c'est une mission, contribuer à la protection des écosystèmes du littoral. Cette mission se décline en deux volets. Le premier est sensibiliser par des expositions comme celle-ci, éphémères, des conférences et autres activités dans le lieu culturel, des activités avec les scolaires, mais aussi un podcast. C'est également un deuxième volet, l'action, avec ce lieu dans lequel vous êtes, dans lequel nous collectons le matériel usagé, obsolète, voire endommagé, maritime, nautique, pour faire une boutique de deuxième main, ainsi qu'une boutique de pièces détachées à l'étage, et enfin une boutique d'artisanat de la transformation. Vous trouverez notamment toute la partie textile. Enfin, c'est un atelier collaboratif dans lequel vous pouvez venir aussi, vous, lors des sessions collaboratives, par réparer votre matériel. Vous pouvez bien sûr nous soutenir en devenant membre de l'association ou en payant un prix d'entrée pour cette visite qui est libre, par exemple 10 euros. Bonne visite!
Bonjour Philippe.
Bonjour Julien, oui.
Comment ça va?
Très bien, très bien. Soleil, tout impeccable.
Soleil. Croisic, quoi, en fait.
Voilà.
Je suis trop content de t'accueillir à la recyclerie maritime pour cette expo photo. Enfin, c'est qu'un extrait, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, on arrive à l'escalier face à ce panneau introductif. C'est quoi le concept de cette expo? Alors, les croisiquets et la mer, étendue d'ailleurs.
Ah ben, ça, c'est un titre qu'on a choisi pour ne pas être enfermé uniquement dans le rapport aux pêcheurs. En disant que dans une cité, pour qu'il y ait des pêcheurs et pour qu'il y ait des bateaux, c'est plus large. Il y a des fabricants, il y a des charpentiers, il y a des marins, il y a des gens qui font des voiles, il y a des gens qui font l'entretien, il y a des gens qui achètent la pêche, il y a des gens qui la revendent. Donc on a une population qu'on a appelée les croisiquets et la mer, qui entretient une relation directe ou indirecte ou différentes avec la mer. Donc à partir de ce moment, on va les retrouver dans l'activité maritime de pêche principalement, mais on va les retrouver aussi dans d'autres activités maritimes. On a vu des douaniers par exemple. Donc ils font partie aussi des croisiquets et la mer.
C'est un peu toute une vie sociale qui s'organise
Alors à la fois une
autour
vie
d'une
sociale,
activité.
mais une vie de compétences aussi, ça c'est très important. C'est-à-dire que on pourrait dire quand un port marche bien, les marins sont riches, donc ils achètent des bateaux assez beaux, donc ils forcent les charpentiers à aller plus loin dans la qualité de leur construction, etc., etc. Quand le poisson est frais, que tout le monde travaille bien, on a des criées qui ont des valeurs ajoutées, c'est le cas encore maintenant. Et il y a une réputation pour le poisson, il y a une réputation pour les crustacés, donc les marailleurs vendent mieux, les poissonniers aussi. Et il y a un enrichissement grâce à la qualité, à l'investissement des hommes, quoi.
Et d'ailleurs, je conclue là-dessus parce que je sais que c'est souvent un sujet qui est posé, en fait, des hommes et des femmes. Et je sais, quand tu dis des hommes, tu
Bien
inclus les
sûr, bien
femmes. Et
sûr,
il y a
bien
un
sûr.
point important dans vos travaux, dans tes travaux autour des femmes aussi, qui avaient un rôle complémentaire avec, comme on l'a vu, marée haute, marée basse, c'est pas les mêmes métiers.
Oui.
Hommes-femmes, il y a des complémentarités aussi. Ça fait partie du travail d'exploration que vous avez fait.
Ben, d'abord, les femmes, c'est des femmes d'hommes qui ont des enfants, donc elles sont à la maison, elles s'occupent des enfants, et très souvent, elles s'occupent aussi de, on va dire, de l'intendance, c'est-à-dire c'est elles qui préparent les vivres quand il va y avoir de nouveau un départ à la mer, c'est elles qui vont recoudre les filets s'il y a besoin, c'est elles qui vont faire tout un tas de petites choses comme ça autour avec l'équipage, mais qui vont des fois se charger de la vente, et puis transporter le poisson pour l'amener chez le marailleur, et puis qui ont été là quand il y avait des problèmes politiques et qu'il a fallu manifester, et puis qui ont été là aussi véritablement pour en soutien éducatif, pour tenir les bistrots, j'ai envie de dire des bêtises, mais il fallait tenir tous ces bistrots quand on imagine ces populations de pêcheurs et que la paye se faisait au bistrot, etc. Fallait bien qu'il y ait des lieux ouverts, du commerce. Et puis, il faut pas oublier qu'au Croisic, il y avait quatre usines de mise en conserve de sardines et qu'on imagine qu'il y avait à peu près 800 femmes à travailler dans ces quatre usines. Donc, une grande partie, c'était des habitants. Mais il y avait aussi ceux qui venaient pour la saison, qui habitaient dans des dortoirs, et là, ben, pas d'enrichissement des usines s'il n'y avait pas cette
Bah, bien
main-d'œuvre
sûr.
très souvent maltraitée, mais cette main-d'œuvre qui était presque une communauté ouvrière, quoi.
Bon, comme on peut le voir, dès que je vais poser une question, il y aura énormément de choses à raconter. Et d'ailleurs, comme on est dans un extrait de tout ça,
oui.
Je voudrais indiquer à tout le monde et aux gens qui visitent qu'on peut voir deux compléments pour aller plus loin.
Mmh.
Le premier, c'est l'exposition à la Criée. Le deuxième, c'est le médiathèque. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur l'exposition à la Criée, de quand à quand, quel sujet ?
Donc, il y a une grande exposition à la Criée jusqu'à mi-septembre en ce moment, l'ancienne Criée, hein, qui est au centre de la ville.
Oui.
Et elle tente à faire un peu la somme de tout le travail qui a été fait sur le patrimoine et le patrimoine immatériel à partir du, on va dire, de la bataille des cardinaux, c'est-à-dire 16-17e siècle, où il y a eu une grande bataille navale au large du Croisic, mais aussi avec des entrées, hein, des entrées techniques, puisqu'il y a eu une école d'hydrographie au Croisic assez tôt, avec un certain Bouguer qui la dirigeait. Et puis on va se promener dans cette exposition en regardant l'entrée maritime de la pêche, on va regarder aussi le début des bains de mer, on va observer l'arrivée du tourisme, de ce qu'a formulé le tourisme, afin de retracer une histoire d'histoire, voilà.
Ouais.
Une grande histoire composée de plein d'histoires.
Bon, à voir, la criée,
voilà.
Allez voir.
Ça c'est important, on a fait une somme, quoi. C'est 400-500 ans d'histoire qu'on a essayé de mettre en forme.
Voilà. Deuxième objet pour aller plus loin, et c'est assez lié aussi au contenu média qu'on a sur la télé, le film qui tourne là-haut, c'est à la médiathèque. On peut retrouver.
Alors à la médiathèque, on a une collection de portraits, il y a 65 portraits de Croisiquet et la mer, parce que ça vient de là. Et nous avons répondu à un appel d'offres des petites cités de caractère il y a un peu plus de 2 ans et demi, pour garder une trace de la vie des anciens. Très vite, on ne s'est pas cantonné aux anciens, on s'est cantonné aussi à ceux qui pêchent. On a fait large et on peut dire que du milieu des années 50 et années 50, on a des témoignages jusqu'à aujourd'hui sur principalement l'activité de pêche et les hommes qui sont actifs là-dedans, mais aussi les métiers annexes, là j'en parlais tout à l'heure, les croisiquets à la mer, c'est-à-dire qu'on a aussi le portrait du patron de Céarium, des gens de la coopérative, du douanier, des mécaniciens, des charpentiers, etc. pour
les cercles qui gravitent.
Voilà. Donc là, c'est des portraits individuels. C'est des choses qui se disent entre une demi-heure et trois quarts d'heure. C'est sans chichi, c'est-à-dire que c'est une conversation en un seul coup, sans décor. C'est un peu une conversation. Une rencontre. Et on propose aux gens d'aller rencontrer ces gens-là. Alors tous n'ont pas été souhaités parler, donc voilà, nous avons les gens qui ont souhaité parler et laisser un message aux autres.
Génial. Merci Philippe de nous donner des petits extraits de tout ça à la Recyclerie Maritime pour donner envie d'aller
plus loin. Petite mise en scène, ça nous a permis aussi de sortir énormément de documentation qu'on a trouvée dans les familles et qu'on a pu remettre en film, soit en numérisant des Super 8, en numérisant des VHF, et puis à partir de toutes les données qu'il y avait dans chaque famille.
Génial, merci beaucoup. On va passer au panneau numéro 2. Alors pour vous qui nous écoutez en intégrale, c'est en haut de l'escalier, sur votre gauche. Et donc on arrive au numéro 2, on rentre tout de suite dans la pêche.
Voilà, là c'est un bateau de pêche, il est conséquent, hein. c'est pas une chaloupe, hein. C'est déjà un bateau important. J'arrive pas à identifier vraiment quel type de pêche. Il est indéniable que ce qui sèche en haut, c'est un filet sardine. On aperçoit qu'on est à quai contre la criée, hein, ce qu'on appelait la poissonnerie à ce moment-là.
Là, on est à peu près au niveau du local du Curune.
Voilà, c'est ça.
Les amis du Curune, le CCC.
Voilà, le CCC. Voilà. Ouais. Donc, on perçoit sur ce bateau une béquille. Ici, il faut pas oublier qu'on est dans un port où la moitié du temps, il n'y a pas d'eau. C'est un port à marée, c'est-à-dire que les bateaux se préparent à être posés sur le fond un certain temps de la journée. Donc ça veut dire qu'ils ont des stratégies pour partir, revenir, etc. Ce qu'on peut voir sur des images comme ça, puisque en gros, la photo, c'est une histoire. L'homme qui a pris cette photo en 1910, il a voulu garder un souvenir de quelque chose qu'il touchait. Donc là, on voit des gens qui portent des bérets, par exemple. Le béret, c'était la coiffe du marin-pêcheur. Il n'était pas que basque. Alors, on ne sait pas très bien si, parce que ils ont fréquenté les basques et sont revenus avec cette coiffe-là. Mais vous verrez sur toutes les images que les hommes, les bretons, portaient des bérets.
Ok, merci. Alors, on va passer au guide de, à l'image numéro 3. Donc on est quai de la Poissonnerie, de l'autre côté de la criée, c'est ça?
Voilà, de l'autre côté de la criée, du côté où on décharge. Ça, c'est le côté où on déchargeait la pêche. Donc là, on n'est pas dans un moment de déchargement. Peut-être qu'on est en train de préparer les bateaux à partir. On a toujours ces filets qui sèchent dans les gréments. On voit aussi les conditions un peu spartiates de cette époque, hein. C'est-à-dire que sur la droite de la photo, on voit plus nettement les habits des hommes, hein, des hommes et même du jeune homme. Ils sont en sabots de bois, les boutouquettes, comme on dit en breton. Donc, et puis la vareuse en coton. Et voilà, il n'y a pas de ciré, il n'y a pas encore les bottes en caoutchouc. Conditions de travail peut-être un peu difficiles, parce que sur un bateau, il y a énormément de choses au sol, et se déplacer avec des sabots, c'est pas si simple.
Ouais, je vais pas essayer.
Voilà.
Merci. Alors, l'expérience suivante, vous êtes en haut sur la mezzanine, c'est d'aller au point numéro 4, c'est l'espace média, où donc on arrive sur le guide numéro 4. Alors Philippe, là on a un extrait de 12 minutes de vidéo, sur un format original d'ailleurs, donc c'est un extrait des portraits qui sont à la médiathèque, si je ne dis pas de
bêtises. Oui, oui.
Et là c'est le format du triptyque, tu peux peut-être nous expliquer ce format du triptyque.
Oh ben, c'était l'idée c'était de voir comment on pourrait faire un document qui raconte la multiplicité des témoignages. Donc les trois écrans, c'est multiplier l'écran, en gros c'est assez simple, c'est créer une dynamique, et ça nous permettait, en même temps qu'on mettait les images des montages que vous allez trouver sur les vidéos, de mettre la documentation qui les accompagne, c'est-à-dire soit sous forme vidéo, soit sous forme image. Et on comprend le mix qu'on a pu faire dans ces récits. C'est-à-dire qu'on a essayé d'utiliser les images comme des éléments narratifs, même si les personnes parlent. Ça vient donner du sens, ça vient donner de la profondeur à ce qu'ils disent.
Je vois très bien, et d'ailleurs ça s'illustre bien quand on regarde le film. Alors le film dure 12 minutes, c'est des extraits, encore une fois, si vous voulez, si vous êtes intéressé. Aller à la médiathèque.
Voilà, tout à fait. Alors, vous n'aurez pas un triptyque comme ça, c'est une petite coquetterie, on s'amuse. Il faut bien qu'on trouve du plaisir aussi à faire des choses, mais je pense qu'on est en train de chercher quelque chose qui serait de l'ordre du film promotionnel, avec une forme un petit peu particulière, qui permettrait d'attirer plus l'attention lorsque on montre ça dans un, dans un lieu où il y a pas mal de gens, où ça circule. Il y a des extraits dans la grande exposition de la criée. Là, c'est des extraits très simples, hein. C'est des extraits d'une minute qui sont sous-titrés et où, quand tout marche bien, il y a 63 personnes qui parlent à tour de rôle dans 20 petits cadres vidéo.
Ouais. Bon, il faut aller voir la criée. Je vous laisse profiter du film. Mettez en pause le guide audio puisqu'on va pas parler pendant le film. Et ensuite, vous pouvez redescendre de la mezzanine. Attention à l'escalier qui est très raide. N'hésitez pas à le descendre en marche arrière pour ceux qui auraient un petit peu peur. On arrive en bas sur le panneau numéro 5. Alors le panneau numéro 5, waouh, là, il y a du monde et ça vient de loin, j'ai envie de dire.
Ben oui, oui. Alors cette photo, ben, scène de vie dans le port du Croisic. Et là, on a des gens qui sont en train de préparer leur repas sur les bateaux. Bon, les bateaux sont forts. En premier plan, on aperçoit un homme qui se sert, peut-être qu'il a froid, on ne sait pas très bien ce qu'il a, mais toujours ses bérets. Toujours ses bérets. On a un bateau qui matriculé Quimper, on comprend que des gens viennent de loin. C'est assez simple, hein, les pêcheurs de sardines suivaient les bancs de sardines, et la sardine est un poisson migrateur qui se déplace à peu près de Saint-Jean-de-Luz, jusqu'au Ratin, quoi, à cette époque. Ouais. Donc les pêcheurs du nord, c'est-à-dire la Bretagne sud, descendent vers la Vendée, vers plus bas même, commencer à attraper la sardine, et toute une flottille composée de gens qui sont pratiquement des Sables-d'Olonne jusqu'à Douarnenez, mais même au-delà, Audierne, etc., va se déplacer. Donc arrive un jour, ou arrive dans des ports comme le Croisic, des gens qui viennent à la fois de la Vendée, mais aussi de ce qui est maintenant la Bretagne, le Finistère, et toute cette population se fréquente. Alors dans le port, ils ont des répartitions. Suivant d'où ils viennent, les parties du port sont réservées aux Vendéens, sont réservées aux Croisicaires, sont réservées aux gars du Nord. Les gars du Nord, c'est les Finistériens. On voit sur les immatriculations, au loin, CC, par exemple, c'est les affaires maritimes de Concarneau, l'immatriculation de Concarneau, et le Croisic. Le Croisic était un quartier maritime. Maintenant, c'est Saint-Nazaire, mais c'était un quartier maritime. parce qu'il y avait une quantité non négligeable d'immatriculation de bateaux de pêche. À la grande époque de la sardine, on estime qu'il y avait jusqu'à 100 bateaux. 100 bateaux avec 13-14 personnes dessus.
Tu parles de 100 bateaux croisiqués ?
Non, de 100 bateaux en plus.
À la saison.
Si on dit qu'ils sont entre 10 et 14, ça fait tout de suite 1000-1200 personnes qui sont là, dans un temps court, hein, mais dans le grand moment. Si la sardine donne beaucoup, ils sont là longtemps, donc ça veut dire que la ville se prépare à cette... C'est pas une invasion, hein, c'est présence.
C'est une saison.
Alors bien sûr, on ne loge pas tout le monde, donc ils dorment sur les bateaux, ils mangent sur les bateaux. C'est pas des gens qui pouvaient facilement aller au restaurant, ils étaient quand même un peu soumis par... ils gagnaient pas très 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 bien leur vie. Et ils restent sur place, quoi.
Ok.
Donc ça veut dire aussi qu'il y a un nombre assez important de ce qu'on va appeler des bistrots, hein, des cafés qui sont dans le port, parce que c'est là qu'on fait les réunions pour partager la paye.
Oui.
C'est là que on paye les hommes une fois par semaine en liquide, chacun son enveloppe. Au vu de tout le monde, on fait les comptes. Les comptes vont être faits avec une part pour l'armateur, une part pour le capitaine, une part pour le patron, oui, et puis chaque homme aura sa paye. Le mousse souvent une demi-paye, demi-salaire. Quoi. Donc cette photo, elle raconte l'histoire de cette présence formidable qui va durer vraiment la grande partie première partie du XXe siècle. C'est-à-dire jusque dans les années 60, ça va rythmer la vie du croisic, la pêche à la sardine.
Merci. On va passer au tableau numéro 6. Alors le numéro 6, c'est marée basse déjà. Hein.
Marée basse, alors on voit des hommes qui travaillent, qui en profitent pour passer du goudron... du bray sur la coque du bateau qui est en deuxième plan.
Pour l'étanchéité, hein.
Voilà. Très souvent, c'est la peinture, c'est un goudron, quoi. C'est un goudron, il n'est pas un goudron végétal, mais on se pose pas trop de questions sur du fait à ce moment-là, hein. Et puis, ça veut dire que le port, c'est le lieu de travail aussi. C'est-à-dire, c'est un lieu habité, puisqu'ils sont piétons, ils partent, ils travaillent, et on voit les bateaux, posés, et on est sur, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle un port à marée. C'est-à-dire une grande partie de la journée, les bateaux peuvent pas partir, ni arriver, ni partir. Donc ils sont là, il y a un temps d'attente, et l'organisation du travail, l'organisation du commerce se fait en fonction de cette particularité.
Oui, ce rythme lunaire d'ailleurs, du cycle des marées.
Voilà, des cycles des marées. Donc on ressent ça, fallait savoir s'arrêter, et puis etc. etc. Donc ça veut dire que quand ils partaient en pêche, ils partaient pas forcément toujours à la même heure, puisqu'ils partaient à marée haute.
Oui.
Donc comme la marée haute se déplace, eh bien ils partaient pas toujours à la même heure. Ce qui pose un problème, parce que les sardines, on les pêchait le matin, à lever du jour. Donc il fallait avoir le rendez-vous avec les sardines, mais aussi tenir compte de l'eau. Donc des fois ils partaient beaucoup plus tôt. Ou ils mettaient les bateaux vers Port Charlie, c'est-à-dire à l'entrée vers la digue, par là-bas, où il y a beaucoup plus d'eau qui reste.
Une zone d'attente possible.
À certains moments, on laisse les bateaux au large, loin du centre. Et on transporte le poisson avec des brouettes jusqu'à la criée. Quoi.
Ouais.
Donc ça veut dire que le poisson prend les rues sur des petites cassettes pour venir à la vente. Quoi.
Merci. Alors on change d'activité. On va passer au tableau numéro 7. Et là, on voit, ça ressemble à un bateau de pêche quand même, non?
Oui.
Mais c'est un bateau de pêche, pas que des pêcheurs.
Voilà, non, c'est-à-dire qu'il y a dans les années... Le croisic devient vite un lieu de villégiature l'été. On développe les bains de mer bien avant la Baule, bien avant... à peu près en même temps que Saint-Nazaire, qui était aussi une station balnéaire. Il y a des récits qui font état de présence de chroniqueurs, voire de grands... d'écrivains, dès les années 1890, hein, par là, dans cette époque-là. Donc, les gens ont envie de faire du bateau, les marins, de temps en temps, nettoient leurs bateaux et puis les transforment un petit peu en yacht ou en bateau de promenade. Et là, on a cette photo du bolet croisic, là, qui transporte des gens bien habillés, parce qu'on a un monsieur qui a un col, une dame avec un chapeau, une voilette, afin qu'ils partagent l'aventure de la mer dans le golfe, quoi, dans la baie du croisic.
Grosse condition, on voit.
En bonne condition de mer.
Oui. Et donc, c'est un peu les prémices de la plaisance, et d'ailleurs, ça nous fait la transition pour le tableau numéro 8.
Oui.
Où le tableau numéro 8, là, pour le coup, c'est plus vraiment un bateau de pêche.
Non, c'est un yacht. Ouais, ouais, c'est un yacht. C'est un catch pro. Il a deux mâts. Ouais. Et on est plutôt sur des voiles, pas tout à fait des voiles de travail, mais des voiles de plaisance, des voiles pour avoir un petit peu plus de vitesse. Il a des signes de décoratifs. Hein. La coque est peinte en blanc. Il y a une volonté qu'il soit plus esthétique. Il y a un roof. C'est-à-dire que dedans, il y a certainement des couchettes. On est à l'abri, contrairement au bateau de pêche où toute la place est bonne pour travailler, donc il faut absolument qu'on ait le pont dégagé. Ouais. Là, on va avoir, on devine à l'intérieur du bateau la possibilité d'y dormir, d'y ranger des affaires, etc.
Alors, 1910.
Voilà, c'est une carte postale de 1910, bah, toujours pareil. C'est intéressant de relire les photos, même les tableaux que vous verrez à la criée. C'est un instantané de la vie, donc ça raconte des choses. Alors même si on ne sait pas tout ce qui se passait, on a le droit de rêver de ce photographe qui, 113 ans plus tard, nous voyons sa prise de vue. Qu'est-ce que ça nous raconte? Dans quel souvenir ça nous met?
Un petit moment suspendu. La suite à la criée, comme vous l'avez vu. Alors j'ai quand même un tableau numéro 9 que je voudrais vous montrer. Et il s'agit de la bâche qui est affichée sur le garde-corps de la mezzanine, qui elle aussi a une histoire, cette bâche, puisqu'elle elle a un rôle pour une exposition passée, si je dis pas.
Oui, oui.
Et qui raconte elle aussi des moments présents et passés.
Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années pour mettre des photos dans les halles du marché, halles du marché couvert. Et puis l'idée, c'était de montrer des gens au travail et de voir s'il pouvait y avoir des résonances entre le travail d'aujourd'hui et le travail d'il y a 100 ans. Donc on a essayé d'associer les images en fonction d'activité. Alors la première image, on voit des gens sur un chalutier en train de réamender. C'est un fond de chalut, là, il est vert, c'est la maille d'un fond de chalut. Et puis de l'autre côté, on voit des hommes avec casquette, ce coup-ci, après il fait pas de béret, il y a juste un petit jeune qui a un béret, en train de réamender les filets de pêche, donc activité de réamendage qui n'a pas changé pratiquement. On voit que les habits ont changé, et là ils ont d'un côté ils ont des cirés, ils sont quand même un peu plus dans le confort que sur le vieux bateau. Et donc on est d'un côté sur un chalut, puisqu'on aperçoit les enrouleurs du chalut au-dessus de la tête des hommes. Et de l'autre côté, on ne faisait pas encore de chalut, c'est des filets droits ou c'est des filets tournants.
Petit détail pour nos auditeurs, réamender, c'est donc réparer.
Alors voilà, réamender, c'est la couture. En gros, c'est la couture. On refait les nœuds pour refaire des mailles. Mmh. Et quand c'est accroché dans de la pierre ou quand on remonte, que ça se déchire. Sur l'image de la première image, ce qui est en vert, c'est que c'est du synthétique, c'est-à-dire c'est des filets en nylon qui vont racler le fond, etc. De l'autre côté, on avait des filets en coton, beaucoup plus fragiles, des filets beaucoup plus fragiles et qu'il fallait entretenir davantage.
Et qui étaient statiques, plus. Alors que l'autre, on le tire avec la puissance.
La puissance des moteurs. Dans les images qu'on a vues, il n'y a pas de moteur. Hein. Ouais. C'est à la voile. Donc à la voile, on peut tirer des lignes derrière un bateau, mais c'est très compliqué de tirer un filet parce que sinon on n'y arrive pas. Donc les filets étaient soit posés d'une manière statique, soit enroulés, ce qu'on appelait des sennes. Mais c'est arrivé un peu plus tard. Soit on faisait le tour du poisson avec un très long filet pour essayer de le coincer dans une poche. C'est comme ça qu'on a pêché les sardines à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Okay. Sur les autres images, on voit un échange en mer c'est des gens qui parlent à langoustine. Enfin, je le connais parce que c'est un gars du Croisic, là, qui nous a fait ces photos. Elles sont faites par Thierry Evin, qui est un patron de pêche d'un bateau qui s'appelle le Quentin Grégoire. Et quand ils sont en mer, bah, au lieu de rentrer, celui qui rentre passe à côté de celui qui sort ou de celui qui empêche. Et afin de garder les langoustines le plus vivantes possible, il faut aller vite. Donc celui qui rentre prend la cargaison du copain, le met dans son frigo et va vite la vendre à la criée. Mmh. Puis après, il faut la reprendre. Et puis sur le morceau d'image aussi, on voit les femmes en train d'aider à décharger peut-être le bateau qui est derrière, qui est matriculé à Auray, celui-là, le A, c'est Auray. Oui, je dis pas de bêtises, c'est Auray.
Maintenant, c'est à Y.
Ouais, Y, oui. Ouais.
Mais à l'époque, je ne peux pas tout
dire. Alors, j'ai un trou. Voilà. Donc, on a voulu, dans le lieu du travail qui est le marché couvert, les gens travaillent puisqu'ils nous vendent leur production, amener la présence des marins et du travail en travaillant aussi une image de couleur, une image de rayon blanc qui raconte le temps. On raconte le temps où on fait des photos de rayon blanc, puis le temps des iPhones aujourd'hui qui nous permettent de faire des photos dans tous les sens.
Bah, merci en tout cas pour ces images. Merci Philippe pour ces histoires.
Bah, j'en prie.
Ce ne sont que des extraits, et encore une fois.
Voilà, tout à fait. C'est des bouts. C'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus. Puis je vous invite vraiment à aller écouter les portraits parce que les gens, ils ont leur langage. Leur langage personnel. Les mots, ils construisent des phrases à leur manière. Avec l'âge qu'ils ont, avec la culture qu'ils ont, avec leurs origines. Ça, c'est important parce que ça fait partie de l'histoire.
Ce guide audio est désormais terminé. Vous pouvez bien sûr continuer votre visite dans la recyclerie maritime, que ce soit la boutique ou simplement la buvette. N'hésitez pas à nous soutenir et, si ça vous a plu, à partager votre expérience sur les réseaux sociaux, mais aussi en bouche à oreille à vos amis. Merci beaucoup et à bientôt.